Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Acclamons la parole de Dieu.
Je vous propose de nous mettre à l'école de ces textes que la liturgie nous propose en ce dimanche. Repassons-les rapidement. Nous avons d'abord écouté le premier livre des rois, où il est question du prophète Élie. Le prophète Élie intervient à un moment de décadence dans le royaume du Nord, Samarie, en Israël. Et petit à petit, la vraie foi se mélange avec toutes les divinités païennes, notamment à l'instigation de la reine Jézabel. Et puis il y a aussi beaucoup d'inégalités à cette époque-là. Enfin, non seulement il y a le mélange de la vraie foi, mais les classes hautes s'enrichissent au détriment des classes plus petites. Donc Élie, dans le texte que nous venons d'entendre, est envoyé à l'étranger, vers Sidon. À l'époque, c'est justement d'où viennent toutes les idoles païennes. C'est tout à fait étonnant. Élie, donc le prophète, c'est celui qui rétablit la foi au Dieu unique, au Dieu de l'Alliance. Il est envoyé à l'étranger, vers le lieu d'où viennent tous les ennemis, si on peut dire. C'est un temps de famine. Il rencontre une veuve et lui demande donc de lui préparer un repas. Vous savez, dans la Bible, la veuve et l'orphelin, c'est ceux qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas de secours. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, donc quand on a plus de mari, on est vraiment dans une misère noire. Donc elle acquiesce, c'est tout à fait étonnant, elle acquiesce à la demande du prophète, et elle devient l'objet de la faveur divine. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, « Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » Donc cette femme est l'objet donc de la promesse, de la faveur divine. Donc nous voyons que cette femme a plus de foi, cette païenne, c'est un petit peu la leçon de cette lecture, c'est que les païens ont plus de foi que ceux qui devraient avoir foi en Dieu, Dieu d'Israël. C'est comme aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Souvent, il y a comme une prédication silencieuse de ceux qui font le bien autour de nous, et pourtant qui ne sont pas chrétiens. Et c'est un petit peu cette prédication que nous pouvons entendre. Toi qui prétends avoir la foi, montre-moi par des actes en qui tu crois. C'est le sens de cette lecture, mais si la liturgie nous l'a mis en première lecture, c'est en lien avec l'Évangile. C'est surtout pour insister sur l'acte de foi, de générosité de cette veuve qui donne tout à cet étranger, au prophète. C'est un acte de confiance insensé, parce que c'est son dernier repas. Donc elle donne tout pour l'étranger. Les pauvres d'hier et d'aujourd'hui sont capables d'une générosité qui remplisse de confusion les nantis que nous sommes. Je me souviens par exemple, en Argentine, avoir rencontré une personne très pauvre, et qui me confiait « Dieu ne m'a jamais fait défaut ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle n'avait jamais souffert de la faim? Si, bien sûr, elle avait souffert de la faim, qu'elle avait vécu dans la précarité, qu'elle n'avait pas où se loger, mais elle avait cette assurance « Dieu ne m'a jamais fait défaut ». Autrement dit, Dieu, elle avait cette conviction, et puis cette expérience que Dieu l'avait soutenue à travers toutes ses épreuves. C'est ce que nous avons chanté dans notre psaume. C'est un psaume qui raconte les bienfaits du Seigneur. C'est un psaume qu'on dit qui a été écrit après l'exil. Donc c'est l'expérience d'Israël. Dieu vient toujours à son secours, que ce soit d'Égypte. Dieu le sort d'Égypte et le conduit à la terre promise. Que ce soit de Babylone où ils sont en exil. il les ramène vers la terre, il les fait passer à travers l'eau et le feu. Certes, les épreuves ne manquent pas, mais toujours la promesse s'accomplit. C'est un psaume de confiance qui exprime la foi profonde du peuple. Le Seigneur rend justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur est l'ami des justes. Nous serions plutôt tentés de dire, à chaque fois que nous sommes témoins de détresse ou d'épreuve, on rentre tout de suite dans la révolte, on se demande mais où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et au contraire, ce psaume nous invite à une attitude de grande confiance. Le croyant sait discerner l'action du Seigneur, la même où tout paraît dire le contraire. Ensuite, nous avons écouté la lettre aux Hébreux. Donc, ça fait un certain nombre de semaines que nous l'avons en deuxième lecture à la messe. Il faut se souvenir que la première génération chrétienne est juive, et parmi eux, en particulier ceux qui vivaient en Israël, ils se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire avec le culte qui avait toujours lieu au temple de Jérusalem après la mort de Jésus. Quel est le sens? Est-ce qu'il faut continuer à offrir des sacrifices comme avant? Quelle est la nouveauté? Donc là, à travers toute cette lettre, l'auteur de la lettre aux Hébreux justement montre que tout cela est devenu caduque parce que le véritable temple, c'est Jésus, la véritable offrande, c'est Jésus, le véritable grand prêtre, c'est Jésus. Dans son sacrifice, par son sacrifice, s'est accomplie la seule et véritable alliance entre Dieu et les hommes. C'est vraiment lui qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Le Christ, Verbe de Dieu fait chair, n'a pas retenu sa vie, il s'est livré, lui le juste, pour les injustes. Il a vraiment mis en pratique ce qu'il disait, ce qu'il prêchait, qui perd sa vie, la trouvera. Et finalement, nous avons entendu cet évangile tout à fait étonnant. On pourrait dire que c'est très banal. On voit Jésus qui regarde un peu ce qui se passe dans le temple. Alors, on pourrait dire la même chose de nous. Alors, il regarde comment les gens mettent leur offrande dans le tronc. Il n'est sans doute pas le seul à observer cette scène. On peut imaginer le riche qui s'approche avec tout son apparat, qui ostensiblement met des pièces dans le tronc. À l'époque, il n'y avait pas de billets, donc ça prenait plus de temps. Alors, quand on est riche, ça prend plus de temps de mettre des pièces. On imagine le clergé qui est tout à fait content avec ces gens qui donnent beaucoup d'argent. Et puis, il y a aussi des petites gens. Et c'est sur cette femme que le regard de Jésus s'arrête. Jésus n'a pas un regard superficiel comme le nôtre, il regarde au cœur. L'essentiel est invisible aux yeux, enseigne la Bible. Jésus, lui, donc, voit l'essentiel, voit les intentions du cœur. Et il nous dit, elle a pris sur son indigence, elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Évidemment, ça nous fait penser au texte que nous avons eu en première lecture, cette veuve de Sarepta, qui nous est donnée en exemple, cette générosité de la dernière chance, si on peut dire. Les pauvres de cœur sont prêts à se mettre en danger pour mieux se livrer entre les mains de Dieu. C'est un petit peu la leçon que ces lectures nous enseignent en ce jour. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent, ou tu méprises l'un, ou tu aimes l'autre. Notre attachement à l'argent, aux sécurités de cette terre, est inversement proportionnel à notre foi en Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas très étonnant si dans notre vieille Europe, que notre vieille Europe perd de la foi, parce que l'unique préoccupation de la plupart des gens, c'est l'argent, c'est le confort, c'est le bien-être. On pourrait dire que les gens gagnent de l'argent la semaine, et le week-end, ils regardent la télé et dépensent l'argent en se promenant dans les magasins. Enfin, maintenant, bientôt, il n'y aura plus de week-end, parce qu'on travaillera toute la semaine. Et au contraire, l'Évangile nous enseigne, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Jésus nous dit, qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Dans de multiples endroits, Jésus promet à ceux qui acceptent de tout perdre pour le suivre, Jésus promet le centuple, des persécutions certes, et le royaume de Dieu. Autrement dit, nous sommes invités à avoir un lien, de nous attacher à Dieu seul. Jésus nous invite à vivre cette pauvreté du cœur, quelle que soit notre condition, nous soyons religieux, mariés, célibataires ou lycéens. Si je veux vivre l'Évangile, je ne peux pas faire l'économie de tout lui préférer, de tout préférer, de préférer Dieu par-dessus toute chose. Ce ne signifie pas ne rien avoir, mais que Dieu soit vraiment le premier servi dans ma vie. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un examen de conscience auquel nous sommes invités aujourd'hui. Quelles sont mes sécurités ? Pourquoi suis-je prêt à perdre ma vie ? Demandons à Marie de nous enseigner cette vertu de pauvreté, elle qui, par sa petitesse, son humilité, a su attirer le don de Dieu le plus excellent. Amen.